rester, s'il vous plaît, à Goma pour prendre trois questions à Goma avant de revenir à Kinshasa. Goma, c'est à vous.
Merci de m'avoir donné la parole. Je suis Mireille Ndeke de la télévision nationale RTNC à Kinshasa. Ma première question, je la pose à Madame Mary Robinson. Madame, je voulais justement savoir, à l'issue de cette septième session du comité d'appui technique, quelle est l'évaluation que vous faites du processus pour les retours de paix dans la région? Là, je voulais clairement savoir les avancées déjà réalisées et ce qui reste à faire. Ça, c'était la première question. Je ne sais pas si je peux engager directement ma deuxième question. Ma deuxième question, je l'adresse au ministre de l'Intérieur. Excellence, je voulais savoir la position du gouvernement congolais face au poste frontalier dont les bornes ont été déracinées. Comment comptez-vous à remédier à cette situation? Merci.
Permettez-moi tout d'abord aussi de dire aux membres de la presse ici, on a le secrétaire exécutif adjoint de la CRGL ici parmi nous qui organise aussi ici, la conférence. Il est aussi prêt de répondre sur les questions.
Alors, merci pour la question très importante. À mon avis, oui, on a fait de progrès. On a fait de vrais progrès. On a vu qu'on a eu le défi militaire de M23 et même le rôle qui joue le comité d'appui technique est très important parce qu'on avait préparé un plan d'action pour les chefs d'État. Les chefs d'État ont adopté ce plan d'action au mois de janvier. Maintenant, on est en train d'évaluer le progrès sur ce plan d'action parce qu'au mois de septembre, avec l'ambassadeur Diarra, nous allons faire un rapport au chef d'État. C'est ça que vous avez dit, mais vous n'avez pas fait assez de progrès. Il faut faire de progrès dans beaucoup de niveaux, avec le DDR, avec le mécanisme conjoint de vérification élargie. Nous avons parlé de ça ce matin. Et surtout, progrès contre les groupes armés. Oui, on a fait des progrès avec le M23, avec le ADF, mais il faut qu'on commence avec le FDLR. C'est très important. Mais vraiment, je crois que le fait que la comité peut se rendre ici à Goma, c'est une preuve du progrès qu'on a fait. Monsieur le ministre?
En ce qui me concerne, je dirais que la question est très sensible et importante. Quand il s'agit des déplacements des bornes, nous faisons très attention à tout ce qui peut apparaître comme une provocation ou un prétexte de guerre. Nos populations ont suffisamment souffert, nous voulons privilégier la paix. Voilà pourquoi nous restons dans l'esprit du chef de l'État qui nous invite à la diplomatie. Nous privilégions dans tous ces genres de cas la voie du dialogue. Et nous avons une commission, la Commission nationale des frontières, qui est à pied d'œuvre, qui entre en contact avec tous les États où il y a ce genre de problèmes pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Notre commission, son président, le professeur Gouyandi, là, qui est dans la salle, a effectué de nombreux voyages pour se documenter de manière à revenir sur les tracés exacts. Et jusqu'à là, je crois que nous menons à bien nos missions et nous évitons pour nous créer un nouveau front. La jeunesse et les mamans nous disent qu'ils en ont marre de la guerre.
Nous restons à Goma. Hein.
Merci. Oui, merci beaucoup, c'est Digital Congo, Hortense Tabakou. Ma question s'adresse à Madame Mary Robinson. J'aborde la question d'Amnesty. Est-ce que c'est vrai les éléments du M23 qui sont en Ouganda, tels que Makenga Sultani, Bertrand Bissimwa, ont signé les fiches des demandes d'amnesty, alors que Madame, il n'y a pas très très longtemps, vous les avez traités des non-amnestiables, et comment aujourd'hui ils ont accès à cette amnistie? Est-ce que vous pensez qu'ils les méritent? Sinon, est-ce que ces fiches vont aussi aller au Rwanda où il y a des Runiga et les autres innocents Kaina? Est-ce à quand et est-ce que vous pensez que cela est possible? Et ils les méritent surtout.
Bon, merci pour la question. Je me rappelle vraiment qu'on avait beaucoup discuté pendant le processus de Kampala qu'il y aura l'amnistie pour beaucoup de gens qui n'avaient pas fait des crimes contre l'humanité et tout ça, mais pas pour les gens qui étaient sur les listes qui avaient fait des crimes très sérieux. Alors ça reste la situation, ça n'a pas changé. Alors ce qui me préoccupe beaucoup à ce moment, c'est qu'il faut faire plus de progrès avec les gens qui sont ou bien à Uganda ou bien à Rwanda, qui devraient maintenant revenir dans le RDC pour le DDR. Parce que la loi d'amnistie n'existe après le mois d'août. Alors, c'est nécessaire de faire des progrès sur ça, parce que ce n'est pas bon pour la paix qu'il y a les gens dans les autres pays qui restent là. Alors, il faut faire des progrès avec le DDR.
Je voudrais peut-être, si ça ne vous gêne pas, compléter, madame. Le simple fait de remplir une fiche ne signifie pas accéder aux privilèges de l'amnistie.
C'est ça.
Il faut remplir la fiche et il faut attendre la réaction. Mmh. Et au niveau du gouvernement, le ministère de la Justice a bien défini les contours, donc tous les cas amnistiés sont connus.
Nous restons toujours à Goma pour une dernière question.
Oui, je suis Gabriel Wamenya de Radio Capi. J'ai deux petites questions de proximité que je vais adresser au ministre de l'Intérieur. C'est par rapport au sort des 4000 policiers issus des différents groupes armés qui ont été intégrés dans la PNC, mais qui jusqu'à aujourd'hui attendent désespérément leur mécanisation. Ils n'ont ni sol, ils n'ont ni numéro matriculé. Si vous pouvez nous donner quelques éclaircissements à ce propos. Deuxième question, c'est par rapport à la suspension de l'administrateur du territoire de Nyiragongo, qui a été suspendu après avoir installé un chef coutumier sur ordre du gouverneur. Nous voulons aussi avoir des éclaircissements sur cette suspension.
Il s'agit bien de questions de proximité, comme il a dit. Pour la première question, je serai sincère avec vous. Je regrette amèrement que la lourdeur persiste en ce qui concerne l'intégration parfaite de ces 4000 policiers, mais je peux vous assurer que tout sera mis en œuvre pour que cela arrive. C'est très dangereux, c'est un précédent qui nous gêne pour de nouvelles intégrations, parce que tout le monde se réfère à cette faiblesse, ce qui convient réellement d'appeler faiblesse. Mais rassurez-vous que nous allons y apporter une solution. Par rapport aux incidents de Nyiragongo, c'est un problème de principe et de discipline. Quand le Conseil des ministres s'est tenu ici, nous avions analysé toutes ces situations liées au conflit coutumier et foncier. Il avait été décidé au niveau du gouvernement que rien ne devait être entrepris au niveau de la province, que le gouvernement devait constituer une commission pour arriver à résoudre toutes ces questions, étant donné les sensibilités et les susceptibilités que nous connaissons tous. Je voudrais en profiter pour vous dire, vous mes frères du Nord Kivu, il faut nous aider à vous aider. Alors, ce qui est arrivé justement est à l'encontre du principe. J'avais appelé le gouverneur qui était à côté de moi à ce moment-là au Katanga pour demander qu'on arrête la démarche. Et j'ai eu l'amabilité d'appeler l'AT du territoire pour lui dire que cette démarche était dangereuse, que le gouverneur était prévenu qu'il fallait l'arrêter. Il y a eu des dérapages dans les langages. Voilà ce que j'ai appelé problème de principe en ce qui concerne le gouverneur et problème de discipline en ce qui concerne l'AT. Puisque vous avez posé la question sur l'AT, je ne vous dis pas ce qui s'est passé avec le gouverneur, mais l'AT devait être sanctionné. Il est temps qu'on puisse travailler dans la discipline.
Merci. Nous allons revenir ici à Kinshasa car nous avons beaucoup de journalistes impatients d'adresser leurs questions également au panel à Goma. Une question ici tout d'abord.
Patrick Mbanga pour l'expression. Je pose ma question au ministre de l'Intérieur. Excellence, la question sur le Mbororo pose beaucoup de problèmes dans la province orientale. Dernièrement, il y a eu même des députés nationaux qui ont adressé un mémo au gouvernement. Je le pense bien que vous avez déjà eu ces mémos-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre de votre ministère pour essayer un peu d'éradiquer cette situation? Et la deuxième question, je poserai à Madame Robinson, si elle peut faire un peu des analyses critiques à ce qui concerne l'amnistie en RDC.
Monsieur Bouyège, la première partie de la question.
Oui, Je ne sais pas si c'est encore une question de proximité. J'ai l'impression qu'on s'éloigne du cadre. Mais je vais quand même y répondre, puisque la question a déjà été posée. Les Mbororo, ce sont des réfugiés climatiques. Et pour leur gestion, il y a des règles internationales. J'ai eu l'occasion de me rendre moi-même, dès le début de mon mandat, en tant que ministre de l'Intérieur, à Ango, où je me suis entretenu avec les Mbororo. La seule peur qu'il y avait est qu'il puisse s'agir des apatrides. Or, lors des contacts que j'ai eu avec les Mbororo, tous connaissaient leur nationalité, tous savaient d'où ils venaient, et tous savaient par où passer pour rentrer. Et tous étaient d'accord de partir. Et dans ces règles, ce qu'il faut éviter, c'est de les chasser par la force. Il faut négocier et arriver à un départ volontaire, comme on le fait avec tous les réfugiés. Et je crois qu'il faut nous donner le temps de le faire, et nous sommes sur le dossier. La confusion qu'il y a dans l'opinion, c'est que ces gens auraient demandé de s'installer. En tant que ministre de l'Intérieur, je sais que j'ai eu des lettres de certaines organisations internationales qui allaient dans ce sens, mais je n'ai jamais eu une lettre de Mbororo qui demandait de rester. Nous avons signé un PV où ils ont accepté de partir librement, et nous n'étions pas seuls, nous étions plusieurs partis, dont la MONUSCO, la société civile, les Mbororo et le gouvernement. Donc c'est une question, à mon avis, partiellement réglée. Il faut nous faire confiance.
La deuxième partie de la question était adressée à Mme Robinson. Elle disait, est-ce que vous pouvez analyser la question de l'amnistie en RDC? La question n'est pas très précise, mais bon, Mme Robinson va essayer d'apporter quelques éléments.
Oui. Bon, alors, quand la loi de l'amnistie était passée par le Parlement, promulguée par le Président, j'étais très contente. C'était très important que c'était fait et qu'on avait appris les leçons du passé. Parce que ce n'est pas l'amnistie pour tout le monde, comme on savait. Alors maintenant, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est de faire plus de progrès avec le DDR, que les gens, les ex-M23 qui sont en Ouganda, en Rwanda, doivent maintenant revenir dans le RDC pour le DDR. Alors vraiment, j'espère qu'on peut faire beaucoup plus de progrès, parce que on n'a pas donné l'amnistie à beaucoup de gens jusqu'à maintenant, surtout les ex-M23. Mais je suis très contente avec la loi, et je veux seulement que c'est la mise en œuvre maintenant qu'il faut.
Merci. Nous allons prendre une question à ma gauche ici. Oui. Rapidement, présentez-vous le nom de votre organe.
Eva Hakim Kombo, Canal Kinshasa Télévision. Je m'adresse au ministre de l'Intérieur. Madame Robinson venait de dire que parmi les grandes avancées dans l'accord cadre d'Addis Abeba, il faut noter la défaite du M23. Alors, pour l'instant, les FDLR restent encore une urgence à régler selon la MONUSCO et Mme Robinson. Est-ce que vous aussi, ministre de l'Intérieur, ce dossier est-il parmi les urgences dans votre programme?
Merci. Réponse donc à M. Mouyège.
Absolument. Il faut éviter de se laisser séduire par des discours de ruse qui tendent à faire croire que le gouvernement congolais ou le peuple congolais agirait en complicité avec les FDLR. S'il y a une partie de l'espace qui a souffert de ces FDLR, qui a souffert de l'ouverture de ces corridors humanitaires en 1994, c'est bien la République démocratique du Congo, et sur tous les plans, sur le plan humanitaire, sur le plan environnemental et sur le plan politique. Donc s'il y a un pays qui est pressé de voir les FDLR partir, c'est bien la RDC. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, il y a eu encore une attaque de l'opposition dans les territoires de Nyiragongo par les mêmes FDLR. Ils ont fait des victimes parmi les innocents. Il y a un mort et un blessé. Et nos FRDC continuent à les traquer. Ils doivent partir. Et je peux vous rassurer que c'est parmi les grandes priorités. Et sur ce point, nous sommes d'accord avec la MONUSCO.
Merci. Dernière question à Kinshasa avant de retrouver Goma.
Lélisa Vesterov de RFI. J'avais deux questions, une à Monsieur le ministre de l'Intérieur et une à...
Est-ce qu'on peut prendre une question? Il y a beaucoup de journalistes qui sont impatients.
Je vais faire très vite. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je voulais savoir quelle est votre réaction par rapport à la décision du Congo-Brazzaville de demander un passeport et un visa aux Congolais de Kinshasa pour traverser, et à Scott Campbell. Sur le rapport sur les violations des droits de l'homme, vous avez dit qu'il y avait 3 fois plus de victimes ce mois-ci, que c'est inquiétant. Comment s'explique cette augmentation et en quoi consiste l'essentiel des violations? Vous avez parlé de viol, si vous pouvez nous donner un peu plus de détails, merci.
Monsieur Mouyej à Goma.
Bon, nous avons été tous surpris par ce nouveau développement de ce qu'il convient désormais d'appeler une crise, parce que la durée, elle peut affecter nos bonnes relations avec Brazza. Il y a eu au départ l'expulsion de irréguliers, d'après ce qu'on nous a fait croire, mais par la suite nous avons observé que même les paisibles citoyens étaient rentrés. On a parlé de retour volontaire, mais après certains contacts, nous avons appris que les conditions étaient créées pour susciter ces retours, dits volontaires entre guillemets. Cela est regrettable. Nous avons invité les officiels d'en face du Congo-Brazza pour que nous puissions ensemble évaluer la situation et tirer des leçons. Jusque-là, nous ne sommes pas encore rencontrés. Mais je voudrais rappeler à l'opinion que depuis le début de cette crise, nous avons organisé 6 missions importantes à Brazza. Et le Brazza en a organisé 2. Et la dernière réunion de la commission mixte politique et défense Congo-Kinshasa-Congo-Brazza s'est tenue à Oyo, donc il est tout à fait normal que cette réunion se tienne à Kinshasa. Nous avons adressé une invitation au Congo-Brazza, mais en retour nous avons reçu une invitation de la délégation de Kinshasa à Brazza. C'est une petite confusion que j'espère que nous allons régler. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une faiblesse. Nous privilégions les dialogues et nous espérons que nous arriverons à des solutions. Le dernier développement est justement celui que vous venez d'évoquer, où on a vu nos compatriotes refoulés parce qu'ils n'avaient que les laisser passer, ce qui jusque-là était admis. On a exigé les passeports et les visas, mais tout de suite j'ai donné l'instruction à la DGM de faire autant. C'est ce que nous faisons aussi. Mais c'est une politique que nous n'aimons pas beaucoup. Mais c'est vrai, dans la Bible il est dit, quand vous recevez une gifle à gauche, donnez la joue droite. Mais quand on en reçoit 2, ça devient difficile d'en recevoir une troisième. Mais ce que nous voulons est que nous puissions nous rencontrer, parce que tout ce qui se passe est contraire aux accords que nous avions convenus lors de la tripartite Angola, RDC, RC. Nous souhaiterions que les contacts se prennent très vite pour éviter de fragiliser les relations qui sont déjà assez bonne. Au niveau de l'espace frontalier, ce sont les mêmes peuples, ce sont pratiquement les mêmes cultures. En ce qui concerne la partie qui est la nôtre, nous continuerons à faire cet effort pour réaliser le rapprochement. Mais rassurez-vous, là je voudrais m'adresser à l'opinion qui considère que le gouvernement est faible. Le gouvernement n'est pas faible. Nous aurons l'occasion de faire un point de presse pour expliquer notre position actuelle. Merci.
Merci. Retour ici, Scott Campbell. Quelques éléments de réponse également, rapidement.
Oui, très rapidement. Donc, on explique cette hausse en termes de nombre de victimes au mois d'avril à cause du contexte, principalement au Nord Kivu. Il y a toujours des opérations importantes, des attaques des groupes armés contre les civils. On note 3 sortes de violations de droits de l'homme. D'abord, les atteintes aux droits de propriété, donc concrètement, beaucoup de cas de pillage contre la population. De 2, des atteintes aux droits de la liberté et sécurité de la personne. Donc, beaucoup aussi d'enlèvements par les groupes armés principalement. Aussi, beaucoup des arrestations arbitraires illégales, y compris par l'armée congolaise. Et de 3, des violations aux droits à l'intégrité physique. Et là, on avait presque 200 cas, y compris 73 cas de violences sexuelles.
Merci. Direction Goma pour des questions. 2 questions à Goma, s'il vous plaît.
D'accord.
Reuters. Oui, moi, c'est Kenny de l'agence Reuters. Je m'adresse à Mme Mary Robinson. Tous, nous savons comment et pourquoi les FDLR sont sur le territoire congolais. Mais ce qui est regrettable, c'est que la communauté internationale est restée un peu lâche par rapport à cette situation. Vous faites pression depuis le début avec tout ce qu'il y a eu avec l'M23, qui sont aujourd'hui en Ouganda, ils doivent rentrer, ils doivent rentrer. Mais la même pression n'a pas été faite à l'endroit du Rwanda. Les FDLR, parmi eux, il y en a qui sont véritablement génocidaires et ceux qui ne le sont pas du tout. Maintenant, la question c'est qu'il faut faire appliquer les mêmes méthodes pour ce qui concerne le Congo et pour le Rwanda, que les FDLR rentrent au Rwanda une fois pour toutes et qu'on oublie cette situation, que ça ne serve pas de prétexte à ceux qui voudraient encore une fois de plus agresser le Congo et faire souffrir les peuples congolais.
Voilà, ça c'est un commentaire, c'est pas une question, hein. C'est bien un commentaire. On prend la prochaine question à Goma. Non, prochaine question à Goma.
En fait, moi c'est Monsieur Papio Christo du journal Écho d'Opinion. Ma question, je la pose à Mary Robinson, au ministre de l'Intérieur. En fait, vous demandez plus depuis la signature de cet accord, Addis Abeba. La communauté internationale a beaucoup demandé ou demandé plus à la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est la même chose? Pourquoi pas ne pas faire aussi la même chose avec d'autres pays? Parce que vous parlez avec le même ton, par exemple, au président Kagame, que vous parlez au président de la République, démocratique du Congo. Au ministre de l'Intérieur, vous avez parlé tantôt des frontières, mais la frontière rwando-congolaise reste jusque-là fermée, jusqu'à 18h. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des problèmes avec le Rwanda, ou qu'est-ce qui bloque pour que ça soit ouvert 24 heures sur 24?
Oui, c'est vrai qu'on a posé cette question, que c'est toujours la RDC qui doit faire en plus, et que je demande plus de la RDC que des autres pays. C'est pas vrai. Je prends comme envoyé spécial des Nations Unies, du secrétaire général, et je prends vraiment la même approche à tous les pays pour ce qui est dans l'accord cadre. Alors j'essaie vraiment, dans une façon très directe peut-être, mais dans une façon juste, d'essayer d'encourager chaque pays de faire en plus. Ce matin, avec le comité d'appui technique, nous avons parlé du plan d'action, des 15 points pour, au niveau régional. On a fait un peu de progrès sur plusieurs points, mais je crois que c'est très nécessaire à faire en plus. Alors, c'était ça que j'ai dit dans mon discours au comité d'appui technique. Mais c'est vrai aussi qu'au niveau de RDC, on a des commitments nationaux et il faut la mise en œuvre de ces commitments. Et je travaille avec mon grand ami Martin Kobler pour soutenir et pour encourager l'RDC de faire en plus avec tous les promis qui ont été faits. Alors, c'est dans l'accord cadre. Et j'essaie d'être juste, d'être ami des pays, mais aussi ami des peuples de la région, et surtout les peuples de l'RDC. Et on avait remarqué sur le FDLR, peut-être dans le passé, on n'avait pas trop de pression sur le FDLR. Mais maintenant, au niveau international, on est vraiment convaincu que c'est nécessaire d'aller contre le FDLR au niveau militaire et au niveau non militaire, et le plus tôt possible.
Nous allons rester à Goma pour prendre une autre.
C'est vrai.
Allez-y, monsieur le ministre.
La régularisation de la situation est un processus. Il se fait. Nous avions rappelé l'ambassadeur. Il est encore chez nous. Il devra rentrer. Il n'est pas encore entré. Nos services avaient demandé à l'époque qu'on ferme. Nous attendons des mêmes services les rapports clairs pour réouvrir. C'est un processus qui se fera. Mais si vous nous transmettez une note secrète pour nous dire pourquoi vous êtes pressé, peut-être que nous vous suivrons.
Voilà, nous allons dire au revoir aux auditeurs et auditrices de Radio Capi. Nous allons poursuivre cette conférence de presse. Nous allons prendre une question encore à Goma avant de revenir à Kinshasa.
Oui, madame, moi c'est Oster Malvika, je travaille pour la Voix de l'Amérique Swahili et ITV. Juste, je voulais savoir l'objectif de votre rencontre ici à Goma et pourquoi vous avez choisi Goma, République démocratique du Congo. Dede, il y a les éléments des FDLR qui sont en train de s'organiser dans le Nord Kivu à présence de vos éléments des Nations Unies, Renault Kibirizi et Verimutaho. S'il est arrivé qu'il y a des attaques où les FDLR attaquent le Rwanda, parce que nous avons des informations que ces éléments sont arrivés même à Moutaro, à quelques kilomètres de Goma. La responsabilité sera pour les Nations Unies ou pour le gouvernement, car vos éléments sont ici pour traquer les groupes négatifs.
Bon, d'abord, vous avez demandé pourquoi cette rencontre du comité technique d'appui est ici à Goma. Je crois que vraiment, c'était très important pour le septième rendez-vous, la septième rencontre. On avait des six rencontres avant à Nairobi, que les membres du comité d'appui technique, qui sont des gens de haut niveau, très proches aux chefs d'État des 13 pays de la COCAD, pourraient venir et voir sur le terrain, voir les ex-combattants dans le camp, voir des gens déplacés ici dans l'est de la RDC. Et aujourd'hui, ils ont la possibilité des experts sur tous les sujets. Et demain, on va finir avec une évaluation du plan d'action pour la rencontre des chefs d'État au mois de septembre. Vous avez parlé du problème de FTLR. Je soutiens l'approche de Martin Kobler, le chef de MONUSCO, qui veut vraiment qu'on peut aller contre le FDLR avec le FARDC, parce que c'est beaucoup mieux d'aller ensemble contre le FDLR. C'est beaucoup plus difficile si c'est nécessaire de prendre une action unilatérale, parce que c'est difficile d'avoir un suivi bon sur ça. Alors, je crois qu'on attend en effet le feu vert du président Kabila pour aller contre le FDLR, et j'espère que ça va venir le plus tôt possible.
Nous allons revenir donc maintenant à Kinshasa pour prendre une question au fond de la salle. Une question. Allez-y, oui, présentez-vous, donnez-moi le nom de votre organe.
Voilà, Roger Marley Lukunga pour le journal Le Paris. Deux petites questions. La première à M. Scott Campbell. Le nombre des cas, vous l'avez dit, d'atteinte aux droits de l'homme a triplé dans la période sous examen. Mais cependant, comme PS, c'est-à-dire post-scriptum, vous avez dit que les responsabilités sont partagées à 50% par les autorités publiques de la République démocratique du Congo et à 50% par les éléments des FARDC. Puisque toutes les étapes de sensibilisation n'ont pas donné de fruits, que doit-on envisager cette fois-ci pour que les droits de l'homme en RDC ne soient pas toujours entravés? Que doit-on envisager? Deuxième question, c'est peut-être au banc qui est devant là. Pourquoi est-ce que la communauté internationale ne fait pas pression à Kigali pour qu'il y ait le dialogue inter-rwandais comme cela a été le cas en République démocratique du Congo?
Monsieur Scott Campbell.
Merci de la question. Je pense que le respect, établir le respect des droits humains, c'est aussi un processus. Et malheureusement, on a un long chemin à parcourir ici, mais il ne faut pas aussi, même en notant les statistiques qui sont parfois accablantes, il ne faut pas être pessimiste, il faut reconnaître le progrès qui est en cours. Concrètement, il y a deux choses à renforcer, bien qu'il y a des efforts très importants en cours faits par le gouvernement, par la société civile et par les Nations Unies et les membres du corps diplomatique aussi. Mais de un, c'est bien sûr la réforme du secteur sécuritaire, notamment à travers la formation, l'éducation et des militaires et les membres de la PNC. Ce sont des processus qui sont déjà en œuvre. Il faut évidemment les renforcer et il faut intégrer aussi un mécanisme de vetting, comme le Conseil de sécurité l'a insisté, pour que ceux qui sont responsables de violations des droits de l'homme soient exclus du service public, notamment au sein des forces de défense et de sécurité. L'autre aspect où il faut renforcer, mais en même temps je note le progrès fait, c'est la lutte contre l'impunité. Il faut bien sûr pour que les responsables des auteurs de violations des droits de l'homme, parmi les groupes armés, parmi aussi les agents étatiques, soient traduits devant la justice, soient redevables. Là aussi, je dois souligner que l'année passée, nous avons eu une augmentation en termes des poursuites judiciaires contre les auteurs. Et on a vu une réduction globale dans le nombre de violations des droits de l'homme, y compris les cas de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Donc, encore une fois, c'est un processus. Je pense qu'on est sur la bonne voie. il faut pousser pour que ça aille plus vite. Bien sûr, tout le monde, je pense, en commençant avec le peuple congolais, tout le monde est impatient pour voir ça.
Merci. Alors, en tant qu'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Madame Mary Robinson, est-ce que vous pouvez donner quelques éléments de réponse aux journalistes qui demandaient pourquoi la communauté internationale ne fait pas pression pour qu'il y ait un dialogue inter-congolais? Inter-rwandais, pardon. Voilà, c'était ça. Inter-rwandais.
Je crois que la communauté internationale et moi-même comme envoyé spécial, nous avons essayé dans les rencontres avec le président Kagame et avec les autorités du gouvernement de Rwanda d'encourager plus de coopération, même au niveau d'intelligence, d'évidence de FDLR, et d'être prête à recevoir les gens qui sont contents d'être partie d'aider RRR 3R. Et je crois que c'est pas vrai qu'on ne parle pas au gouvernement de Rwanda sur ce sujet. Souvent, je les ai soulevés avec le gouvernement de Rwanda. Et dans le passé, le gouvernement de Rwanda a reçu assez des ex-FDLR. Et ça doit continuer, mais à mon avis, c'est nécessaire d'avoir d'aller dans une façon militaire contre l'FDLR parce qu'il y a des attaques, comme le ministre a dit, et que c'est nécessaire de les adresser comme groupe armé. C'est ce que les chefs d'État dans la conférence des Grands Lacs, dans la COCAD, ont dit plusieurs fois. Il faut aller contre tous les groupes armés et l'FDLR, maintenant, je crois que c'est une priorité.
Avant de mettre fin à cette conférence de presse, une dernière question à Goma.
Merci. Pouvez-vous me dire je voudrais poser la question à l'ambassadeur de l'Union africaine qui est présent dans la salle. Est-ce que le processus de paix dans la signature de l'accord est un processus qui concerne uniquement les Européens? Où sont les Africains dans cette région de la paix? Et ma deuxième question s'adresse au ministre Mouyesh. Dans votre speech inaugural aujourd'hui, vous avez dit, je cite, utiliser une main noire de ceux qui continuent à soutenir les forces négatives et les groupes armés. Cette main noire est-elle interne ou externe? Si elle est externe, quelle est cette main noire?
Oui, merci. Je ne crois pas qu'il soit juste de parler. On peut commencer. Je ne crois pas qu'il soit juste de parler uniquement de l'intervention des Occidentaux. Rappelons-nous que l'accord cadre a été garanti, certes, par les Nations Unies, mais c'est au-delà des Occidentaux, mais par l'Union africaine, par la CIRGL et par la SADC. Et pour la première fois, les chefs d'État signataires de l'accord cadre se sont mis ensemble dans un mécanisme régional de suivi des engagements régionaux. C'est quand même pas rien que les chefs d'État africains aient décidé, dans la mesure où ils ont souhaité mettre vraiment l'accent sur les causes profondes du conflit, que ce soit eux-mêmes qui se soient constitués un mécanisme pour suivre le respect des engagements sur le terrain. Et ils ont décidé, les chefs d'État, de mettre en place un comité d'appui technique composé, comme Marie l'a dit, de leurs représentants de haut niveau pour suivre sur le terrain les actions prioritaires à faire. Donc je pense que c'est une... je crois que vous n'avez pas raison en parlant d'intervention uniquement des Européens. Au contraire, l'accord cadre est une affaire purement africaine qui engage les chefs d'État africains, qui engage les décideurs africains, et je pense qu'il faut effectivement noter cela comme une avancée profonde pour remettre effectivement la situation des crises dans la région des Grands Lacs et en RDC au-devant de la scène. Je vous remercie.
Et si je peux ajouter à ce que mon ami Boubacar Diarra a dit, on a aussi le président de l'ACGLA, le président Dos Santos, qui a pris vraiment un rôle de leadership parmi les chefs d'État. Il a eu le sommet à Luanda au mois de janvier, mais après ça, un mini-sommet. J'étais récemment à Luanda et l'Angola vraiment a pris le rôle de président dans une façon très active et avec beaucoup de volonté politique qui est le plus important pour la région.
S'agissant de la mémoire, en tant que responsable de service, je connais cette mémoire et il faut la neutraliser. Croyez-vous à ce moment-là qu'il soit prudent de la dévoiler? Non, les gens n'ont pas le travail de nos services.
Merci à tous d'avoir suivi cette conférence de presse. Nous remercions également les invités depuis Goma et l'ensemble des journalistes à Goma ici à Kinshasa. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine.